Monsieur le vice-premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Le 21 mars, vous avez rencontré votre homologue rwandais en Angola. Une rencontre Félix Tshisekedi-Paul Kagame serait-elle possible?
Les deux chefs d'État ont admis le principe d'une telle rencontre, mais il faut bien la préparer pour qu'elle soit utile, qu'elle contribue effectivement à faire avancer le processus de paix modéré par le président Lourenço de l'Angola, qui a été désigné facilitateur du dialogue entre la RDC et le Rwanda.
Alors vous avez quand même un petit peu avancé, puisqu'apparemment, le 21 mars, lors de cette rencontre à Luanda, vous vous êtes engagé à neutraliser les rebelles hutus rwandais FDLR, tandis que le Rwanda s'est engagé à revoir son dispositif de défense et de sécurité. Est-ce qu'on peut dire que chacun a fait un petit pas vers l'autre?
Vous me donnez une occasion d'apporter une précision. Nous ne sommes pas engagés à neutraliser. Nous sommes engagés à produire une proposition de plan et de programme de neutralisation. C'est ce travail auquel on se livre maintenant qu'on va remettre à la facilitation pour arriver à nous mettre d'accord sur la manière la plus efficace de résoudre la question d'FDLR. Parce que vous savez que le président Kagame ne cesse de répéter à qui veut l'entendre que la cause de la présence de son armée en RDC, c'est la présence de ces fameuses FDLR. Il faut donc crever l'abcès. La RDC a dit « Ok, nous allons vous proposer comment y mettre fin. » Et en ce moment-là, il n'y aura plus de prétexte. Bon, nous avons exigé de notre côté que pour tout dialogue, pour crever l'abcès, la première condition, c'est le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. En effet, le président Tshisekedi a affirmé que nous n'allons jamais accepter de négocier sous occupation, parce que nous n'allons jamais être indignes de notre pays. Il faut que cette armée sorte de notre pays. Ça, c'est la première condition, elle est préjudicielle. Et par la suite, il faut que le président Kagame donne les vraies raisons de la présence de l'armée rwandaise chez nous. En fait, c'est pour des raisons économiques. Les pillages de nos ressources, c'est ça la vérité.
Est-ce que pour frapper les esprits, pour peut-être enclencher une dynamique de réconciliation, le président Tshisekedi serait prêt à rencontrer son homologue rwandais avant même le retrait des troupes rwandaises?
Je dois dire que le président a le plus grand respect à l'endroit du président Lourenço. C'est notre voisin immédiat, c'est le facilitateur désigné par l'Union africaine.
Le président angolais.
Angolais. Mais cette rencontre n'a d'utilité que si cette question est résolue. C'est pour cette raison, parce que vous avez fait allusion au travail qu'on a fait à Luanda, que nous avons été très indignés d'observer que le document que nous avons rédigé ensemble, destiné aux chefs d'État, les Rwandais l'ont publié dans les médias sociaux. C'est un coup porté aux médiateurs et ça nous convainc qu'eux ne croient pas à ce que nous faisons. Ils n'ont pas confiance en la personne du président Lourenço. Et ça, c'est une panne, c'est un grain de sable qu'on a mis dans la machine, que nous voulons qu'elle marche très bien. Et aussi, le président Tshisekedi n'a pas confiance président Kagame.
Donc pas de rencontre pour l'instant.
La rencontre, pour l'instant, le principe a été accepté. Nous préparons cette rencontre-là et dès que la préparation va avancer, ils vont se rencontrer.
D'accord, donc il faut que les Rwandais fassent un geste militaire.
Oui.
Un début de retrait, par exemple.
Ils doivent se retirer. Et je rappelle aussi sur ça que l'initiative américaine qui nous a été proposée au mois de novembre, le 21 novembre, avait comme point central cette affaire de retrait des troupes rwandaises. Et il nous a été demandé aussi de donner un signal fort comme quoi nous ne pourrons jamais accepter une quelconque collaboration avec l'FDLR. Nous avons répondu. Vous avez suivi qu'il y a eu même un communiqué de commandement militaire sur ordre du président qui disait que si on apprenait que même par hasard, un militaire congolais a collaboré avec ce fameux FDLR, c'est la cour dans des militaires. Et vous savez qu'il y a, je crois, un officier supérieur qui a été pris pour cette affaire-là. Nous avons fait ce que nous devons faire. Mais du côté du Rwanda, ils n'ont pas retiré un seul militaire, même la plus petite arme. Non, ils ont refusé. Et donc vous voyez que c'est une question essentielle pour nous, et je le répète, c'est une question préjudicielle à toute discussion sur le fond.
Dans une interview récente à nos confrères du Monde de Radio France et du Wall Street Journal, le président Tshisekedi accuse la communauté internationale de complicité avec les Rwandais qui agressent votre pays. Mais, monsieur le vice-premier ministre, est-ce que les Américains, les Français, n'ont pas condamné publiquement le soutien des Rwandais aux rebelles du M23? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux Rwandais de retirer leurs troupes de votre pays?
Ça ne suffit pas. C'est positif. C'est une évolution qu'il faut saluer. Mais nous disons qu'on ne doit pas se limiter à ça. D'autant plus qu'on sait que le président Kagame n'a que du mépris vis-à-vis de telles prises de position. Donc, il faut aller vers les actions de terrain. Voilà.
Vous dites que vos ressources sont pillées par le Rwanda, puis transformées par d'autres pays. À quel pays pensez-vous ?
Le président Kagame lui-même a déclaré publiquement, dans une interview, il a cité certains pays européens.
Vous pensez à qui ?
Ce n'est pas moi qui pense. M. Kagame a dit, on me reproche, on m'accuse de piller les ressources du Congo, mais ces ressources ne s'arrêtent pas chez moi. Ils vont en Europe, il a même cité la Belgique, par exemple. Vous voyez ? Et puis aussi, est-ce qu'on peut encore se poser des questions dès lors que l'Union européenne, Madame la commissaire chargée du développement international, de partenariats internationaux, a signé un accord avec les ministres rwandais des Affaires étrangères, M. Biruta, qui porte sur les matières premières recherchées, stratégiques, à travers le monde, alors que l'Union européenne, M. Borrell et Madame la commissaire, savent très bien que le Rwanda ne produit pas ce qu'on veut qu'il ait pour faire le commerce avec l'Union européenne, pour faire la transformation. Donc, vous voyez, je crois que les directions sont indiquées.
La visite officielle du président Tshisekedi à Paris à la fin de ce mois, le 28 avril, vous en attendez quoi de ce point de vue ?
D'abord, il faut souligner quand même que c'est la première visite officielle que le président va effectuer en France depuis qu'il est chef de l'État. Il est déjà venu plusieurs fois, mais à d'autres occasions. Donc, c'est une visite qui doit être utile. Les problèmes sont là. Nous avons le dossier de la crise à l'Est. On a parlé tout à l'heure de la position de la France et je vous ai dit qu'il faut aller plus loin.
Plus loin, c'est-à-dire des sanctions supplémentaires ?
Nous, des
contre
sanctions.
Contre le Rwanda, c'est ça que vous attendez ?
Ce n'est même pas supplémentaire parce qu'il y a eu un frémissement du côté de la France, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des sanctions supplémentaires. Nous reconnaissons aussi le rôle que la France joue au Conseil de sécurité comme la plume concernant la situation au Congo depuis pratiquement 30 ans. Mais là, il faut des clarifications. Nous espérons qu'après le passage du chef de l'État en France, il n'y aura plus d'équivoques. Il y a toute une série de questions, l'aide que l'Union européenne donne à Rwanda dernièrement. Il n'y a pas longtemps, il y a encore 20 millions qui se sont ajoutés pendant qu'il est en guerre.
C'était pour l'aide à l'armée rwandaise au Mozambique.
C'est ce qu'on nous a dit. Il y a tout le dossier de la francophonie. Il est quand même étonnant qu'il y ait une crise aiguë avec une tragédie humanitaire comme celle que nous avons à l'est du pays, que le deuxième pays francophone du monde après la France en termes de nombre de locuteurs soit là en train de subir l'agression d'un autre État membre de la francophonie et que tout cela est vécu avec indifférence à la limite de la complicité parce que quand on ne sanctionne pas, on ne désapprouve pas, ça signifie qu'on approuve, qu'on soutient, qu'on encourage. Vous voyez, donc il y a ce dossier. Et au niveau aussi de la francophonie, il y a même la gouvernance de la francophonie à travers son institution derrière. Nous avons des propositions à faire et ça sera fait au prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra, je crois, au mois d'octobre. Et puis en bilatéral, la France est présente dans la formation de notre armée au niveau de l'académie militaire, au niveau de la brigade spécialisée en matière de combat dans la jungle. Nous avons là une planche de coopération qu'il faut renforcer. Il y a d'autres éléments de coopération qui sont importants. D'ailleurs, je crois que le président va me rencontrer l'association des entrepreneurs MEDEF. Il y a la coopération dans toute une série de secteurs d'activités, le minerai stratégique, l'industrie de la batterie. Il y a toute une série de questions que nous devons traiter avec la France. Donc, nous attendons à ce que vraiment cette visite puisse se terminer par des propositions concrètes et claires.
Christophe Lutundula, l'une des causes des difficultés que vous rencontrez sur le front militaire au Nord Kivu, c'est, dites-vous, le fait qu'il y ait des traîtres dans votre armée. Mais vous avez des preuves de trahison ?
La justice militaire est en plein fonctionnement. Nous avons des éléments qui nous poussent à croire qu'effectivement, il y a des trahisons, il y a des traîtres parmi nos vaillants soldats. Mais il ne faut pas généraliser, ce n'est pas un cancer qui se métastase, non. Ce sont des cas très isolés et c'est pour cela que l'effort doit être fait, et nous le faisons, pour extirper ce cas vraiment très isolé du corps de notre armée et la rendre plus performante, plus dissuasive.
Alors vous parlez de justice militaire. Par une circulaire du 13 mars dernier, votre gouvernement a rétabli la peine de mort qui n'était plus pratiquée depuis 2003. Est-ce à dire par exemple que les 11 militaires actuellement jugés par une cour militaire du Nord Kivu risquent d'être condamnés à mort, voire exécutés ?
Oh, vous allez vite en besogne. Je crois d'abord que la question de la peine de mort ne vaut pas tous les déchaînements d'intervention que nous voyons actuellement, parce qu'il y a 54 pays au monde qui continuent à appliquer la peine de mort, et parmi lesquels les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas entendu le même tollé du côté de nos partenaires, et nous pensons que chaque pays, chaque société a ses problèmes. Et puis, un gouvernement responsable ne peut pas vivre la situation que nous observons au Kivu. Vous avez parlé de trahison. Donc, ce sont des questions spécifiques qui nécessitent des solutions spécifiques. C'est très clair. Mais notre engagement vis-à-vis des droits de l'homme n'est pas à mettre en doute. D'ailleurs, nous venons d'être désignés par l'Union africaine comme candidat de l'Union africaine au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Et permettez, parce qu'on en parle, il faut absolument décourager toute trahison dans ce que nous vivons au Congo. Je ne sais pas si les gens portent une attention sur un événement majeur qui traduit la nouvelle stratégie du président Kagame au Congo. Il y a eu naissance d'une association, d'un mouvement qu'on appelle Alliance Fleuve Congo, à Nairobi, au Kenya, pays membre de l'EAC comme nous. Et ce mouvement nous a dit qu'il faisait alliance avec l'M23. On ne se pose pas de questions. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, le président Kagame a adopté la stratégie qui consiste à faire naître un autre mouvement qui va opérer à Ituri, qui va faire jonction avec l'M23, parce qu'il sait que la supercherie autour d'FDLR va se terminer. Et donc, il faut faire naître ça et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, c'est congolo-congolais. Et vous voyez encore, il y a un autre groupe qui vient d'être créé. Et donc, il ne faut pas qu'on soit distrait. Et aujourd'hui, nous sommes choqués de voir ou d'entendre certains Congolais nous dire que ceux qui rejoignent ce groupe-là, Alliance Fleuve Congo, ont raison de le faire parce qu'il y a partage de gâteaux. On ne peut pas condamner la politique de vente, la politique de partage de gâteaux et en même temps nous dire qu'on peut faire la rébellion, qui est un acte condamné par la loi pénale parce qu'on suppose qu'on n'a pas été associé au partage de gâteaux. Non, la loi, la constitution prévoit les statuts de l'opposition. Le président a dit qu'il fera tout pour appliquer le statut de l'opposition, faire participer tout le Congolais à la gestion du pays selon les règles établies par la Constitution et les lois de la République. Donc, j'ai tenu à faire cette parenthèse-là parce que c'est un acte très important. Dans les jours à venir, on vous dira non, c'est pas l'M23, maintenant ça devient Alliance Fleuve Congo.
Et le ralliement justement à ce mouvement Alliance Fleuve Congo de quelques soutiens individuels comme un ancien cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir, un ancien député du MLC de Jean-Pierre Bemba, trois anciens cadres du PPRD de Joseph Kabila, est-ce que ça vous inquiète pas ?
Ça ne nous inquiète pas, non seulement parce qu'il y en a eu d'autres dans le passé qui se sont livrés à cet exercice de trahison. Ça nous pousse au contraire à aller au combat avec beaucoup plus de détermination parce qu'on voit que le vénin n'est pas encore extirpé de notre corps. Le virus est là, il faut se battre. Ceux qui posent ces actes-là, ils savent qu'il y a les lois de la République. Donc, ça ne nous pose aucun problème particulier que nous n'ayons connu dans l'histoire de notre pays.
Vous parlez d'un statut de l'opposition. La libération, la semaine dernière, de l'opposant Salomon Kalanda, après 10 mois de détention, est-ce que c'est le signe d'une détente entre la majorité présidentielle et le mouvement, la coalition d'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ?
Écoutez, on ne peut pas dire directement le signe d'une détente parce que c'est comme si on voulait dire que la politique s'est mêlée à cette affaire. C'est une affaire purement judiciaire. Mais si ça peut contribuer, d'une part, à décrisper la situation, à éviter de procès d'intention. Et d'autre part, à faire avancer le procès, parce que c'est une affaire judiciaire, tant mieux.
Et vous qui avez été avec Ensemble pour la République jusqu'à il y a un an et demi,
Non, plus d'un an et demi.
Jusqu'à il y a 2 ans ?
Oui, je crois, 2 ans. Ça va faire 3 ans bientôt.
Ça va faire 3 ans. Est-ce que vous espérez que les choses vont se détendre entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ?
Le président Tshisekedi a dit, avant même les élections, il y a longtemps, qu'il tient, c'était à une interview, je crois, du côté de l'Ituri, au début de ses fonctions, c'était avec vous, je crois, avec M. Perlman, qui tenait à avoir une opposition forte, une opposition républicaine. Et il a réitéré cet appel à ceux qui sont dans l'opposition. Donc il mettra tout en œuvre pour que ça fonctionne bien.
Christophe Lutundula, vous avez bien connu Chérubin Okendé, hein, notamment quand il était avec vous au gouvernement. Quelques mois après son passage dans l'opposition, il a été retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet dernier à Kinshasa. Et aujourd'hui, le parquet conclut à un suicide. Est-ce que vous y croyez ?
Y a-t-il autre conclusion venant d'une institution attitrée par la Constitution ? Ou bien nous avons un pouvoir judiciaire avec toutes ces juridictions qui fait son travail, comme moi, nous au gouvernement, nous faisons notre travail, ou bien nous n'en avons pas. C'est la conclusion qui nous a été présentée par l'institution attitrée, dont acte.
À ses obsèques, le cardinal archevêque Mgr Ambongo a déclaré Comment comprendre qu'un père de famille, qui venait de marier sa fille, se soit tiré des balles sur lui-même? La conclusion absurde de l'enquête est la preuve que la justice de notre pays est vraiment malade.
Mais Mgr Bongo, sur un autre sujet de justice, n'a fait que répéter ce que le président Tshisekedi lui-même a dit. Voilà, donc il n'y a pas de commentaire, le président l'a déjà dit, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ça pose problème, et moi qui suis un ancien magistrat, j'en souffre aussi. J'ai la pleine conscience de ce que, pour qu'un État existe, pour qu'il remplisse son rôle, la sécurité, la création des espaces d'épanouissement personnel et collectif, il faut une justice qui fonctionne, c'est-à-dire qui rend le droit en toute indépendance, qui ne signifie pas une justice de l'arbitraire des juges. Il faut une armée performante, dissuasive, et il faut une administration qui est à côté des citoyens, qui leur rende vraiment un service public. Et lorsque la justice ne fonctionne pas, et je crois que là, ça pose quand même un problème de fond.
La famille de Chérubin Okendé demande une contre-expertise sur les circonstances de sa mort.
C'est son droit.
Qu'en pensez-vous ?
C'est son droit. Il y a des procédures qui permettent cela. C'est son droit. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est son droit.
Christophe Lutundula, merci.
Merci beaucoup.